Soyez les bienvenus pour le journal d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pas assez de vaccinés et des vaccins peu efficaces. Voilà pourquoi la Chine persiste dans sa stratégie zéro Covid. Impossible là-bas de vivre avec le virus. Les plus âgés ne sont pas immunisés contre les formes graves. Nous serons à Pékin. En Ukraine, l'offensive russe tant redoutée sur le Donbass a commencé. C'est le président ukrainien qui l'annonce. Mais les troupes de Moscou auraient le moral au plus bas. Témoignage à suivre. Dans ce journal aussi, à la veille du débat d'entre-deux-tours, retour sur celui de 2017 et le moment où tout a basculé. Enfin, direction le printemps de Bourges et une édition normale cette année après deux saisons tronquées.
Et à 7h50, je vous rappelle que l'invité d'Inter est aujourd'hui le politologue et directeur délégué d'Ipsos. J'ai nommé Brice Teinturier.
France Inter.
La stratégie zéro Covid, Alexis, peut-elle encore tenir longtemps en Chine?
Malgré la censure, de plus en plus de critiques se font entendre contre la mise sous cloche de Shanghai. Les acteurs économiques aussi s'inquiètent. Conséquences sur la consommation, les approvisionnements. Pour l'instant, la croissance chinoise résiste. Mais ça ne va pas durer, selon les experts. D'autant que ces sacrifices n'empêchent pas les records de contamination, mais aussi les décès dus au Covid. Une dizaine recensés en 48 heures. Alors pourquoi la Chine n'abandonne-t-elle pas ces sévères restrictions? Eh bien car elle s'inquiète pour ses personnes âgées. 60% seulement des seniors sont vaccinés là-bas, moins de 40% avec le rappel. Alors les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour convaincre. Sébastien Berriot est à Pékin.
À l'entrée de ce marché de Pékin, on est accueilli par une annonce diffusée en continu par un haut-parleur.
La vaccination, venez faire la vaccination. Vous verrez, vous aurez de bons avantages. Pour les seniors de plus de 60 ans, si vous venez vous faire vacciner ici, nous vous offrons des boîtes de lait.
Le sujet de la vaccination est sensible, ceux qui la refusent sont plutôt mal vus et préfèrent ne pas s'exprimer. Ce retraité de 68 ans, lui, fait partie des réticents qui assument.
Je n'en veux pas. Pourquoi je ferai le vaccin? Peu importe ce que l'on dit, je n'y crois pas. Moi et ma femme, nous n'allons pas nous faire vacciner.
À cause notamment des seniors, la Chine n'a pas atteint l'immunité collective et il y a aussi l'efficacité des vaccins chinois qui est remise en cause. Pour le professeur Jing Dongyang, l'un des virologues les plus réputés de Hong Kong, la Chine doit accepter d'autres vaccins que les siens, ce qui devrait faciliter la levée de la stratégie zéro Covid.
Nous disons depuis longtemps que la commercialisation des vaccins importés doit être approuvée. Si on se soucie vraiment de la vie et de la santé des gens, on doit approuver les vaccins à ARN messager comme Pfizer et ce, dès que possible.
Les Chinois ont bien autorisé le traitement anti-Covid développé par Pfizer, mais pas le vaccin qui n'est toujours pas reconnu en Chine. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Des villes chinoises toujours sous cloche, alors qu'aux États-Unis, le masque n'est ce matin même plus obligatoire dans les transports publics sur décision de justice.
Il est 7h33, la bataille pour le Donbass a commencé en Ukraine.
C'est le président ukrainien qui l'annonce. Pour Volodymyr Zelensky, cette fois, aucun doute, les forces russes ont déclenché l'offensive qu'elles préparent depuis des semaines dans l'est du pays. C'est déjà l'enfer, assure de son côté le gouverneur de la région de Lugansk. Une deuxième phase de la guerre, cruciale pour le Kremlin, selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
On peut dire en quelque sorte que Vladimir Poutine joue son va-tout dans cette offensive. L'Ukraine a démontré depuis 54 jours sa capacité à résister à de multiples attaques. Maintenant, il faut souligner que les forces armées ukrainiennes ont été, depuis cette époque, soumises à rude épreuve et qu'elles vont être confrontées à une masse importante. Visiblement, Moscou a ramené tout ce qu'il pouvait en termes de forces, donc d'infanterie, de chars et d'artillerie. Et donc, on risque d'avoir des combats extrêmement intenses avec, hélas, beaucoup de pertes parmi les populations civiles qui n'ont pas eu le temps de fuir la région. Il est urgent pour Vladimir Poutine d'obtenir ce succès, alors même que les Ukrainiens, eux, se sentent en confiance puisqu'ils ont réussi jusqu'à présent à contenir les avancées de l'armée russe.
Le général Pellistrandi avec Augustin arrivé. Bataille déterminante pour Poutine, même s'il doit composer avec des troupes dont le moral serait au plus bas. C'est ce que révèlent de nouveaux témoignages mis en avant par la partie adverse et que vous avez pu récupérer, Virginie Pironon.
C'est un enregistrement mis en ligne il y a seulement quelques jours par les services de sécurité ukrainiens. Ce document est présenté comme venant d'un jeune soldat russe blessé qui, juste avant de mourir, adresse ce message à son petit frère.
Faut pas y aller. Ici, personne n'est considéré comme une personne à part entière. Il y a des gens qui meurent, on ne ramasse même pas leur corps. N'y va pas, même si on menace de te virer. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et s'ils te menacent de poursuite pour désertion ou autre, envoie-les au diable.
Les conscrits russes, dans leur grande majorité âgés de 18 à 20 ans, se sentiraient dupés, trompés, et n'hésitent plus à désobéir et à le dire aux jeunes de leur âge, comme l'explique publiquement le journaliste et politicien ukrainien Dmitry Gordon.
Premièrement, ils leur racontent qu'ils n'ont pas vu un seul fasciste. Deuxièmement, ils leur disent que l'armée ukrainienne est bien plus motivée qu'eux et bien mieux ravitaillée. Troisièmement, ils racontent que les Ukrainiens n'ont pas peur de les tuer.
Selon un spécialiste de l'armée russe, les conscrits arrivent en ce moment au terme de leur service militaire qui dure un an. La relève est prévue pour les mois de mai et juin. Et il n'est pas du tout certain que l'armée russe puisse retrouver les mêmes effectifs, soit 150 000 hommes, qu'elle avait engagés au début de la guerre.
Les tensions ne retombent pas en Israël après un week-end de violence sur l'esplanade des mosquées. Le sud du pays visé hier soir par une roquette tirée depuis la bande de Gaza, une première depuis janvier. En représailles, l'armée israélienne a mené cette nuit des frappes aériennes sur Gaza. À 5 jours du second tour de la présidentielle, le camp Macron s'inquiète de l'abstention dimanche. Alors le président candidat tente de mobiliser sur le mode « rien n'est joué ». Hier soir sur France 5, il a même fait référence au précédent du Brexit et de Trump, si vous voulez éviter l'impensable, choisissez pour vous-même. Fin de citation. Quant à son adversaire, c'est silence radio aujourd'hui. Pas de déplacement ni d'interview pour Marine Le Pen. 100% focalisé sur la préparation du débat de demain soir. La candidate RN ne veut surtout pas reproduire les erreurs de 2017, notamment sur l'économie, car c'est sur ce thème que le duel télévisé a basculé en sa défaveur il y a 5 ans, Claire Chaudière.
Moins de 10 secondes après le début du débat, Marine Le Pen dévoile sa stratégie, tapée fort sur l'angle économique.
Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, du saccage de nos grands groupes.
Mais à peine quelques minutes plus tard, elle est mise en difficulté.
Les entreprises que vous avez vendues, SFR.
Vous n'étiez pas ministre quand SFR a été vendu.
Oui, cherchez dans vos dossiers.
Pour Alstom, vous avez dit à monsieur Dupont-Aignan, c'est pas moi.
Mais on parle d'Alstom.
Janvier 2000.
C'est triste pour vous. Comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones et l'autre, ça n'a rien à voir.
Sur le pouvoir d'achat, la candidate du FN à l'époque repart à l'attaque.
Si vous retirez les aides au logement, il y a toute une série de foyers qui ne pourront plus se loger.
Mais qu'il s'agisse du prix des médicaments,
une mauvaise nouvelle,
du financement de son programme ou de la sortie de l'euro, le débat tourne au vrai du faux permanent.
C'est un fonds souverain.
C'est faux.
Ah,
puisque
c'est faux. D'accord.
Oui. D'accord. C'est un mensonge.
Il faut retrouver notre...
On revient au franc ou pas ?
Les banques centrales paieront avec de l'euro. Mais ça existait, et oui. Et c'était l'écu.
Ça n'a jamais existé. L'écu, c'était une monnaie de référence.
À noter qu'en 2017, le chômage de masse est bien sûr au cœur des discussions.
Depuis 30 ans, c'est le taux de chômage.
Cette casse du droit du travail va créer des chômeurs supplémentaires.
5 ans plus tard, alors que le nombre de demandeurs d'emploi a significativement baissé, chacun analysera demain, probablement à sa manière, les raisons de cette embellie.
À gauche, après la débâcle du premier tour, le Parti Socialiste réunit ce soir son Conseil National pour tirer les enseignements du scrutin, mais aussi parler législatives. Quelles alliances pour survivre en juin ? Ce week-end, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a tendu la main à Jean-Luc Mélenchon. Mais pour l'instant, les Insoumis disent non. La justice française s'apprête-t-elle à juger un fou ? Un étudiant algérien de 28 ans, comparé à partir d'aujourd'hui devant les assises à Nanterre pour une tentative d'assassinat sur un ex-camarade de fac en janvier 2019. L'accusé a reconnu les faits, mais 3 expertises psychiatriques ont conclu à son irresponsabilité pénale. Pour les médecins, sa place n'est donc pas en prison, mais à l'hôpital. Mathilde Vinceneuf.
Devant les enquêteurs, Yeria reconnaît avoir parcouru 700 kilomètres pour attendre en bas de son immeuble un autre étudiant rencontré il y a des années en Algérie et lui tirer dessus à bout portant. C'était son plan depuis 3 ans, dit-il, tuer cet homme et se suicider parce qu'il lui aurait volé son grand amour, une fille avec qui il avait déjeuné une fois. Face au psychiatre, Yeria parle du plan machiavélique de sa victime. Il en fait des cauchemars depuis des années. Tous les experts font le même diagnostic, schizophrénie paranoïde avec des hallucinations, des délires de persécution. Il conclut à l'abolition de son discernement et préconise une hospitalisation. vaccination. Des conclusions balayées par la chambre de l'instruction. Les magistrats estiment qu'il était bien ancré dans la réalité, que son attitude avant et après les faits le montre. Il le renvoie donc devant un jury populaire qui va devoir trancher, non pas sur sa culpabilité, elle semble avérée, mais sur sa folie et sur son degré de responsabilité.
450 000 dollars en compensation d'une fête d'anniversaire non désirée. Ça se passe aux États-Unis où la justice vient de condamner une entreprise à verser ce dédommagement à un ancien salarié. En août 2019, à l'approche de son anniversaire, il avait prévenu ses supérieurs qu'il ne souhaitait pas qu'on le célèbre. Trop de mauvais souvenirs pour lui. Malgré cette consigne, le jour J, ses collègues ont déployé une banderole en salle de pause. Résultat, une crise de panique, des tensions avec la hiérarchie et un licenciement. Licenciement donc injustifié pour le tribunal.
Voilà, il est 7h40, enfin un festival normal désiré, comme avant.
Oui, le printemps de Bourges qui s'ouvre aujourd'hui et il retrouve son format traditionnel après deux éditions perturbées par la crise sanitaire. 6 jours de musique mêlant jeunes talents et têtes d'affiche, Juliette Armanet, Clara Luciani, Ayam, pour n'en citer que quelques-uns, en espérant que le public soit au rendez-vous, Mathieu Culeron.
Le printemps de Bourges revient dans sa forme d'avant Covid avec toujours sa devise, création, découverte, émergence. Boris Vedel est le directeur de l'événement.
Il y a beaucoup d'émergences, il y a des têtes d'affiche, mais énormément de jeunes artistes qui se révèlent. C'est un peu le festival où tout commence. On les retrouvera comme têtes d'affiche, naturellement. 4 créations autour de Céline Dion, Rover aussi à la cathédrale. Et puis une dernière création qui va être très émouvante, très très forte, c'est Brigitte Fontaine qui vient avec un dernier spectacle qui s'appelle Closing Night.
Premier grand rendez-vous des professionnels de la musique, le printemps de Bourges doit retrouver un public jeune qui a parfois perdu l'habitude de se rendre au concert.
C'est une génération, 2 ans, 3 ans. À Bourges par exemple, les étudiants ils viennent 3 ans à Bourges, donc certains étudiants sont revenus à Bourges sans avoir connu le printemps de Bourges Crédit Mutuel, qui est un peu la cathédrale de la Tour Eiffel de Bourges.
Mais l'événement du jour, c'est bien le concert des Dutronc père et fils, Jacques et Thomas, qui n'en reviennent toujours pas du succès de leur tournée.
Le répertoire, c'est une claque dans la gueule, quoi. Toutes les chansons, on se dit, c'est pas possible, autant de bonnes chansons. Mais c'est tellement un bonheur que ça donne le vertige.
Là, l'aventure ne fait que commencer, quoi. À chaque fois, j'ai envie de sortir ma carte d'identité en disant, vous savez, j'ai été là, il faut peut-être arrêter. Après, je vais être Charles Aznavour sur scène, là, si ça continue.
Le printemps de Bourges jusqu'à dimanche avec demain Juliette Armanet, Brigitte Fontaine et même un certain Michel Houellebecq.
Et ce que vous entendez là, ce sont bien sûr les dernières répétitions des Dutronc sur scène à partir de 21h30 ce soir à Bourges.
Alexis Morel, merci. L'édito politique Thomas Legrand, à suivre.